Chapitre 2 Les lutins. Tout en communiquant mes réflexions au provençal, qui semblait plus pressé d'arriver à un gîte que de me répondre, je m'étais remis en marche avec lui. Ne tardâmes pas à apercevoir une maison précédée d'une cour et qui donnait sur une route qu'il nous fallut traverser. Je reconnus au premier coup d'œil une de ces hôtelleries campagnardes où s'arrêtent les maquignons et les rouliers. Le postillon, qui depuis le moment où nous l'avions aperçu, faisait claquer son fouet pour annoncer notre arrivée, parut surpris de ne voir personne sortir à sa rencontre. La porte d'entrée était ouverte à deux battants, la cour déserte. Une grande carriole, trop haute pour s'abriter sous le hangar, avait été appuyée le long du mur de clôture. Notre guide regarda autour de lui. « Eh bien, pas de maître et pas de chien, dit-il. On entre donc ici comme au champ de foire ?» Je fis observer que tout le monde était sans doute endormi. « Non, non, reprit-il, les gens ne se couchent qu'à la minuit. Il faut que Guiraud soit absent avec son gendre. La belle-fille est accouchée l'avant-hier et la mère grand est sourde comme un pavé. « Mais que fait donc la petite Toinette ?»« Voici quelqu'un, dit mon compagnon. » Une lumière venait en effet de paraître sur le seuil de l'auberge, et nous la vîmes s'avancer en sautillant au milieu de l'obscurité. Une voix se fit entendre avant que l'on pût distinguer personne. « Est-ce vous, nos gens ? » cria-t-elle de loin. « Allons donc, moisson d'Albanie, dit le postillon. « J'ai cru qu'il n'y avait personne dans votre Logan. »« Tiens, Jean-Marie, reprit la voix. Il m'avait semblé que c'était ceux de la maison qui sont allés à Beauvais. Comment donc que vous êtes par ici avec vos chevaux ?»« Perjou, t'as qu'à le demander au petit pont qui a voulu manger un morceau de maroux, » répliqua Jean-Marie. « Un peu plus, nous allions choir au beau mi-temps du terrain. »« Ah, Jésus, si vous avez versé !» Et ça te fait rire, pas vrai, grec que tu es, vu que ça t'amène des voyageurs. Oh, bien, comme si on en manquait au lion rouge, dit Toinette d'un ton de fierté un peu dédaigneuse. Il y en a déjà 10 dans les deux chambres, leur carriole est là, près du hangar. En relevant la lanterne de corde qu'elle avait posée sur la neige, elle nous montra le chemin. La lumière qu'elle tenait à la hauteur de son épaule l'enveloppait d'un rayonnement qui me la fit remarquer. C'était une fillette à la poitrine étroite et aux mouvements saccadés, dont le visage avait cette expression de hardiesse naïve qui marque, pour ainsi dire, la transition entre l'enfant et la jeune fille. Elle nous fit entrer dans une grande pièce éclairée par une de ces chandelles rugueuses et fluettes que l'auteur des contes d'Espagne appelle périodiquement de « maigre suif », et une vieille femme filait, assise, dans l'étroite auréole de lumière. Dès l'entrée, son aspect me frappa. L'âge avait fait disparaître de son visage toute la mobilité de la vie. Le regard était fixe, les lèvres fermées, le front sillonné de plus rides et encagerés d'une toile rousse, qui semblait jaunie par les siècles. On eût dit quelques momies égyptiennes à demi sorties de son bandelette funèbre. Le corps raidi, elle tournait d'une main le rouet, tandis que l'autre tirait le lin de la quenouille. Ce double mouvement, toujours pareil, avait quelque chose de plus saisissant que l'immobilité même. Il semblait voir la mort forcée de se mouvoir pour imiter la vie. La fileuse ne parut point s'apercevoir de notre arrivée et nous effleurâmes son rouet sans qu'elle y prît garde. Toinette nous avertit qu'elle avait cessé d'entendre et de voir. Pour lui rendre le passage suprême moins difficile, Dieu la faisait mourir à plusieurs fois. Il l'habituait au sépulcre en l'enveloppant d'une nuit et d'un silence éternel. Je contemplais avec curiosité les restes de cette enveloppe charnelle. Maison démeublée dont la céleste habitante allait partir. Je cherchais quelques traces de ce qui avait été jeune, vivant et beau sur cette tombe d'un passé qui n'avait même point laissé d'épitaphe. Et tout à coup, les lèvres qui semblaient scellées s'entr'ouvrirent. Une voix confuse et inégale appela notre conductrice. Tonard! Tonard courut à la vieille femme, appuya la bouche contre sa joue et répondit: Me voici, mère grand. Les autres ne viennent-ils pas d'entrer? Demanda la fileuse. Non, grand-mère, ce sont des voyageurs. Ah, oh, j'ai senti leur air passer sur moi. Dis-leur que Dieu les protège, Tonard. Mais ils sont là, ils vous écoutent, mère grand. Ah, tu as raison, il n'y a que moi qui ai les oreilles fermées, murmura la fileuse en soupirant. Je regardais Toinette avec surprise. Mais elle entend, m'écriai-je. Quand je lui parle, répondit l'enfant, aucune autre voix ne peut lui arriver. C'est un don que Dieu m'a fait, comme à sa filleule. Je souris de cette croyance naïve. Le don, ainsi que l'appelait Toinette, avait en effet une origine immortelle, car il lui venait de sa pieuse tendresse. Cette tendresse seule avait pu lui apprendre à approcher ses lèvres de la joue de l'aïeul, en ralentissant les modulations de la voix, afin que le souffle pût en quelque sorte y écrire les paroles prononcées. Le miracle ne venait que du cœur. Dès ce moment, le postillon rentra. Il venait de conduire ses chevaux à l'écurie et se plaignit de n'y avoir pas trouvé personne. Aujourd'hui est-il pas? Demanda Toinette étonnée. Ah bien oui, répliqua Jean-Marie, le galopiant. Encore de ripaille. En voilà un chrétien qui mourra pas de mal labeur. Jour de grande fatigue, il a 9 doigts qui se reposent. Et pourtant sa besogne est faite, dit la jeune fille. Si c'est possible, reprit le postillon émerveillé, il a donc toujours à son service le farfadet? Mais ce n'est point pour Rougeot que vient le farfadet, dit Toinette avec une sorte de vivacité. Demandez plutôt à la mère grand. Et s'approchant de la fileuse, pas vrai, grand-mère, que dans la famille il y a toujours eu le lutin? Guillaumet, répéta la vieille femme, sur les traits de laquelle passa comme un souffle de vie. Oui, c'est un vieux serviteur. Il faut avoir soin de lui, Tonard. Soyez tranquille, grand-mère grand. Toutes les nuits, je laisse la petite porte ouverte et la clé au garde-manger. Aussi, Guillaumet ne manque jamais de venir. Vous l'avez aperçu? Demanda mon compagnon. Oh non, dit la fillette. Grand-mère nous a averti que si on cherchait à le regarder, il s'enfuyait et que sa vue pouvait faire mourir. Mais on l'entend balayer, cirer les tables ou tirer l'eau du puits. Mais il vient garnir les râteliers, tandis que ce jeune âne de Rougeot dort dans la soupente à foin, ajouta le postillon. Il paraît même que Guillaumet monte sur la pécharde au milieu de la nuit pour la conduire à la pâture et qu'il s'amuse à lui tresser la crinière. Du fait, j'ai vu le harin mignonner de sa main comme les chevaux de foire du Bessin. Et il faut pas mettre Guillaumet en colère, reprit la fileuse, qui n'avait rien entendu de ce qu'on venait de dire et qui continuait sa pensée. Les lutins ne sont pas chrétiens, vois-tu, filloul. Ils n'ont pas appris à pardonner. La grand-mère en aurait-elle fait l'épreuve? Demandai-je, curieux de provoquer la confidence de la vieille femme. Toinette lui transmit ma question. Oh, pas moi, répondit-elle. Quand Guillaumet était de méchante humeur, qu'il semait les cendres sur le plancher ou jetait des pailles dans le lait, je ne disais mot. Il reprenait son bon caractère. Ah, avec les farfadets, c'est comme avec les maris. Il faut laisser passer le nuage. L'on définit, ils sont pris de honte, et pour acheter chaque goutte de pluie, il vous envoie 3 rayons de soleil. Je demandais s'il n'y avait pas aucun moyen de chasser le lutin quand on en était là. Aucun, répondit la vieille en secouant la tête. Ce sont les serviteurs qui restent par malice. quand ce n'est plus par amitié. Demandez plutôt au meunier du vieux moulin. » J'interrogeais du regard Toinette qui dit à la fileuse de raconter l'histoire du meunier. « Il n'y a pas d'histoire, » reprit la vieille. « La chose a été connue dans le temps de toutes les paroisses qui font moutre sur Réauval. L'homme du vieux moulin s'était mis en guerre avec son farfadet, de sorte que celui-ci le tourmentait à lui seul autant que trois huissiers. Et quand le soleil mettait les mares à sec, et que la rivière, comme on dit, montrait toutes ses dents, le lutin profitait de la nuit pour ouvrir les vannes et laisser couler les réserves d'eau. Et si le meunier levait ses meules, vite il prenait les marteaux pour les repiquer à rebours. Et souvent il attachait des pierres à la grande roue qui ne pouvait plus tourner. D'autres fois, il mêlait dans la trémie le seigle avec le froment. Enfin, l'homme du vieux moulin arriva si bien au bout de sa patience qu'il voulut se délivrer à tout prix. Le farfadet dormait d'habitude au fond des sacs de blé de mars, coupés sous la farine bleutée, comme dans la mousseline. Une nuit donc, le meunier se leva, sans rien dire, chargea tous les sacs sur son âne, et alla les vider à la rivière. Quand la dernière poche de mouture fut à l'eau, il poussa un soupir de soulagement en pensant que s'il avait perdu pour 100 écus de farine, il avait du moins noyé son ennemi. Mais au même instant, une petite voix cria à ses côtés « Voilà qui est fait, mon homme, retournons dormir !» Et comme il relevait la tête, tout saisi, il aperçut le farfadet assis sur l'arçon du baudet. La vieille fileuse ajouta beaucoup de choses sur le danger qu'il y avait à irriter le lutin familier. Son inimitié ne se traduisait point seulement en taquinerie, en perte ou en mauvais traitement. Elle pesait sur vous comme une malédiction. La servante qui avait offensé le farfadet sentait sa main se dédoubler. Tout lui échappait et se brisait à ses pieds. Le coq ne la réveillait plus au point du jour. Le bois le plus sec refusait de s'allumer et se tordait en pleurant. Elle avait à subir sans cesse les réprimandes du maître jusqu'à ce qu'elle eût chassé, été chassée du logis. Je retrouvais là tous les caractères du Kelpie écossais et du Hutchen, petit chapeau de nos voisins d'Outre-Rhin. Mon compagnon m'apprit que la France méridionale avait également ses lutins appelés facilières, de nature non moins maligne, mais plus facétieuse. Le roi Tambourinet avait toujours à sa suite, comme les princes du Moyen-Âge, un bouffon qu'on nommait Drac, dont il fallait particulièrement se défier. Malheur au voyageur qui avait oublié de lui offrir quelques miettes de son goûter sur l'herbe ou de faire pour lui une libation avant de boire aux fontaines. Drac débouclait les sangles de son cheval pour le faire tomber dans la première mare et continuait à le persécuter pendant tout le trajet de ces mille contrariétés qui, sans être des douleurs, empêchent de savourer la joie. On voit que, dans la légende du Drac, la muse populaire avait imité la mythologie païenne en symbolisant des faits ou des instincts. Pour certaines gens, en effet, le hasard semble toujours malencontreux, tandis que pour d'autres, il semble avoir toujours de l'esprit. C'est ce que le peuple, dans son langage pratique, a exprimé par deux mots, la chance et le guignon. La chance est autre chose que l'adresse instinctive à connaître d'où va souffler le vent, à prendre le flot au moment où il part, à avoir soin d'arriver à la veille des tempêtes. On lui a donné, selon les lieux, les noms de bon génie, d'ange gardien, de fée protectrice. Et le guignon, au contraire, est la gaucherie naturelle qui nous fait prendre toujours les choses par le côté où il n'y a point d'anse, cueillir les fruits hors de saison et croire que les couchers de soleil sont des aurores. On l'a personnifié tour à tour dans le mauvais destin, dans le démon ou dans le drac méridional. Les espiègleries de ce dernier, raconté par mon compagnon de voyage avec l'accent timbré et les gestes pittoresques de la Provence, nous divertirent singulièrement. Au fond, c'était toujours la même fable. Mais la version méridionale avait quelque chose de particulièrement svelte et spontané. La muse révélait son origine par l'élégance de son allure. Inques supatuit dea. Ici, du reste, comme toujours, l'invention n'avait fait que traduire l'esprit d'une race. Car là est surtout le côté sérieux et, pour ainsi dire, historique des superstitions populaires. Outre l'instinct général et humain, elles expriment, dans leurs variantes infinies, le caractère particulier des différentes populations. Le monde fantastique de chaque contrée lui appartient aussi réellement que son ciel, sa végétation, ses fleuves ou ses montagnes. C'est la traduction symbolisée de son âme, la forme que prennent chez elle le rêve et le désir. Écoutez les récits de l'Arabe pauvre, avide et sensuel, sous la tente de poils de chameau qu'il dresse parmi les suites du désert. Vous n'entendrez parler que d'ombrages charmants, de palais merveilleux, de belles princesses, de trésors et de couronnes. L'homme du Nord vous racontera les apparitions du nain mystérieux qui remplit la lampe du mineur d'une huile intarissable et lui montre dans les flancs de la terre les filons d'or et d'argent entrelacés comme des veines. Le sauvage de l'Amérique du Nord vous dira comment l'herbe Manitou fait reconnaître les pistes de l'élan jusque sur la surface des eaux, et ce qui arriva au jeune guerrier Midway qui avait appris la langue des castors. Dans notre Europe contemporaine elle-même, les traditions populaires prennent le caractère, l'accent du pays où elles naissent. Capricieuses et brillantes en Espagne, gracieuses en Irlande, dramatiques en Écosse, fines et moqueuses dans notre France, plus poétiques en Allemagne, et affectant aisément la prophétie et le symbole. Je me rappelle à ce sujet que venant de Badevillers et traversant les clairières de la forêt noire, dans lesquelles les distillateurs d'eau de cerises ont établi leur chalet, je m'arrêtai à l'une des cabanes où l'on vendait à boire. J'y trouvai un vieux paysan badois qui me souhaita la bienvenue en français. Il avait servi sous nos drapeaux et assisté au désastre de la campagne de Moscou. Lorsque nous quittâmes ensemble la distillerie, il m'accompagna quelque temps à travers la montagne. En traversant une sorte de carrefour dont j'ai oublié le nom, il me montra un vieux cerisier desséché qui portait le nom de cerisier de la promesse. Dans les anciens temps, me dit-il, deux armées s'étaient livrées là une grande bataille. La lutte avait été si acharnée que tous les cavaliers furent démontés et que le sang entrait par-dessus leurs bottes fortes et coulait jusqu'à leurs talons. Enfin, ceux qui défendaient la bonne cause furent vaincus. Leur chef vint mourir sous le cerisier, qui alors déjà était tel qu'on le voit aujourd'hui. Il y imprima sa main sanglante, dont on voit encore la trace, en déclarant qu'un jour cet arbre reverdirait, et qu'alors la bonne cause remporterait à son tour une victoire décisive. Depuis, on avait coupé l'arbre bien des fois. Mais, bien que mort en apparence, le cerisier repoussait toujours. Le paysan badois, qui habitait la frontière républicaine du canton de Bâle-Campagne, ajouta d'un air que je n'oublierai jamais: les pères ont expliqué que ce cerisier était la liberté des Allemands. Nous n'avons encore qu'un tronc desséché, mais j'espère bien ne pas mourir sans le voir pousser les feuilles et sans assister à la grande bataille d'expiation. En France, où l'esprit d'insurrection est certes plus prononcé que de l'autre côté du Rhin, on chercherait vainement une pareille tradition. Chez nous, le peuple ne confie au comte que ses rêveries. Quant aux espérances possibles, au lieu d'en faire des fables, il les traduit résolument en action. La fantaisie allemande côtoie toujours la vie pratique. Elle se donne, par la précision des détails, un air d'authenticité. Le conte de Nourrice ressemble à un document historique. Vous y trouvez souvent les noms exacts de nobles familles, le souvenir des grands événements, une connaissance des mœurs, des fonctions, des lois, la date du fait et ses moindres circonstances. Le fantastique a enfin pris corps dans le réel. Chez nous, rien de pareil. Nulle observation des temps, des personnes, ni des lieux. La scène de nos mille et une nuits se passe presque toujours au milieu d'une contrée sans nom, entre des personnages qui n'ont point vécu. On n'y trouve jamais ce charme que donne l'apparence de la vérité. Et nous ne croyons pas assez à nos jardins féeriques pour y faire éclore la fleur de naïveté qui embaume les traditions germaniques. Aussi, nos superstitions, qui sentent le badinage, se sont-elles bien vite effacées dans nos villes et jusque dans nos bourgades? À peine ont-elles survécu dans les campagnes. Là aussi, le temps les emportera. Plein d'un respect religieux pour la marche providentielle des sociétés, nous n'accuserons pas le siècle qui a fait son devoir en passant le soc sur ces ruines et y semant le sel comme les conquérants antiques. Nous savons que les arbres doivent laisser tomber leur couronne de fleurs quand vient la saison des fruits. Mais tout en acceptant ce qui s'accomplit comme bon et juste, nous ne pouvons nous empêcher de demander tous quel sera le sort réservé à certains instincts qui trouvaient naturellement à se satisfaire dans ce monde détruit. Quand on aura ôté aux hommes leurs rêves pour les soumettre au seul régime de la raison positive, est-il sûr que beaucoup d'entre eux ne trouveront point le pain dont on les nourrit un peu fade et bien dur? N'est-il pas à craindre même qu'ils ne s'y accommodent qu'à condition de quelque appauvrissement de leur nature? Certes, nous ne demandons pas qu'on leur conserve la croyance aux revenants, aux magiciens, aux lutins et aux fées. Mais ne vont-ils perdre en même temps les aspirations immortelles, le besoin de protection en dehors du monde sensible, le sentiment que la création entière est liée à nous par d'invisibles influences? Si vous leur ôtez la superstition, apprenez-leur la vraie foi, car ne vous y trompez point. Les croyances populaires n'étaient que les symboles obscurcis d'aspirations et d'espérances inhérentes à notre destinée. Brisez les grossières statues, il le faut, mais par Dieu, respectez ce qu'elles traduisaient imparfaitement. Chapitre 3. La fée du lion rouge. La grand-mère n'avait rien entendu de l'histoire du drac racontée par le provençal. Elle était retombée dans son silence automatique. Ce qu'elle avait dit des lutins me prouvait que l'âge n'avait point effacé de son souvenir les traditions du pays et qu'en interrogeant, je pourrais beaucoup apprendre. Déjà, plusieurs fois, j'avais fouillé avec fruit dans ses mémoires à demi éteintes, comme dans de vieilles éditions lacérées par le temps. Mais je ne pouvais lui adresser de questions que par l'entremise de sa petite fille. Et celle-ci venait de nous quitter, attirée par les cris du nouveau-né, qui occupait avec sa mère une chambre dont nous n'étions séparés que par une petite cour. Je la vis bientôt revenir avec des langes qu'elle suspendit au foyer. La fileuse lui demanda des nouvelles de l'accouchée. Mais on va bien, dit Toinette. Mais ça donnerait une année de sa vie pour une heure de dormir. Et le petit frère crie comme un aigle. Apporte-le, dit la vieille femme, je la câlinerai dans mon giron. Oh, c'est inutile pour l'heure, mère grand, dit la fillette, il a pris le somme. Et se tournant vers nous, bon, je ne dis pas que j'ai porté le berceau dans la chambre jaune, ajouta-t-elle en souriant, grand-mère aurait peur des méchantes fades qui viennent tourmenter les nouveau-nés. Ceci me servit naturellement de transition pour prier Toinette d'interroger la fileuse sur les superstitions populaires du canton. La jeune fille transmit fidèlement mes questions. Mais les réponses de la vieille femme impatientée furent courtes. Mon compagnon, qui vit mon désappointement, haussa les épaules. Que Dieu vous bénisse, dit-il ironiquement. Vous voulez tirer de l'huile d'un olivier mort. Oh, vous croyez cela, dit Toinette, eh bien, Vous allez voir si la mer grande ne se rappelle pas quand elle veut. » Et s'approchant de la fileuse, comme elle avait déjà fait, « Pas vrai que le monde n'est plus comme quand vous étiez jeune, mère grand, » dit-elle d'une voix caressante. La vieille hocha la tête et répondit par une exclamation plaintive. Le provençal se retourna. « Et sur mon honneur, la momie a soupiré » s'écria-t-il. « Ah, c'était alors la bonne époque, » reprit la jeune fille, du même ton insinuant. Vos amoureux plantaient des mains garnis de rubans devant nos portes. On faisait danser des rondes d'épreuves sur nos nouveaux venus pour savoir s'ils étaient braves. Vous aviez de belles veillées où les anciens apprenaient le moyen d'échapper aux sorciers et de se faire bien voir et venir des bonnes filandières. » Le rouet de la vieille femme s'était arrêté. Elle écoutait la voix de l'enfant comme si elle eût entendu la voix même de sa jeunesse. Les rides de son visage s'agitaient et semblaient sourire. Ses paupières s'entr'ouvraient. L'œil éteint cherchait la lumière. Nous regardions avec une curiosité étonnée cette espèce de résurrection qu'elle venait d'accomplir à la parole de Toinette. La vieille femme porta la main à son front comme pour se rappeler, et ses doigts se virent à jouer avec une mèche de cheveux blancs que ses coiffes laissaient échapper. Il y avait dans ce geste rêveur je ne sais quel réminiscent de jeune fille dont je fus ému. « Oui, oui !» murmura la fileuse qui semblait parler tout haut, à la manière des enfants ou des vieillards. « Comme le pays était beau alors, et quels gens affables ! Toujours un sourire quand on passait, et « Bonjour la grande Cyril !» « Bonjour la jolie fille, ha ha !» Il savait vivre dans ce temps-là. Et pourtant, Gertrude et moi, nous étions les plus recherchés. Pauvre Gertrude, qui devait finir si tristement. Mais aussi, son frère avait déniché sous le toit la poule de Dieu, l'hirondelle. Elle avait écrasé le cri-cri, grillon, de la cheminée. Et l'on a fait du mal aux petites créatures qui vivent sous notre protection, les bons anges, pleurent et quittent le logis. » Ici, la voix de la grand-mère devint plus basse. Elle continua quelque temps, en mots inintelligibles, sa divagation rétrospective. Puis nous l'entendîmes qui parlait du rêve Saint-Benoît. « N'est-ce pas lui, grand-mère, qui fait voir en songe l'homme qu'on épousera ?» demanda Toinette. « Je l'ai vu, moi, » reprit la vieille, en souriant d'un air de triomphe. « Mais j'avais suivi toutes les prescriptions. La chandelle éteinte, j'avais mis mon pied nu sur le bord du lit, en prononçant les quatre vers d'appel. Je m'étais couché sans penser à rien d'autre chose qu'à celui qui devait dormir sur mon oreiller. Aussi, vers le milieu de la nuit, j'ai vu clairement en songe Jérôme, le postillon d'Achille. « Et qu'en faut-il faire, l'épreuve, grand-mère ?» demanda Toinette avec un intérêt attentif qui trahissait déjà de vagues souhaits. « La veille de Noël !» répliqua la fileuse. « Mais pour réussir, il faut n'avoir encore soi contre soi ni fait ni esprit, sans quoi ils rompent l'appel. Voilà ce qu'ils oublient tous maintenant, vois-tu, fioul. Ils ne savent pas que les esprits sont partout, sous toutes les figures, pour éprouver notre bon cœur ou notre méchanceté. Si on veut être sûr de ne pas les mécompter, il faut se conduire en chrétien, avec toutes les choses du bon Dieu. » Je fus frappé de ces dernières paroles, qui commentaient, pour ainsi dire, mes propres pensées, en faisant du monde fantastique l'invisible gardien de la morale dans le monde réel. Je demandai à la grand-mère si les traditions ne parlait point de gens punis par certains esprits de leurs bons procédés. « Jamais, » répondit-elle. « Les plus mauvais s'en vont en grondant quand ils trouvent un brave cœur. Ils ont coutume de dire qu'ils sont trop bien gardés pour eux. Il y en a même qui ont de bons mouvements. Un jour, le Gubelino, qui était déguisé en mendiant, demanda une poignée de sel à un saunier. Et comme celui-ci lui en donna trois au nom de Trace Trinité, le Gubelino toucha les clochettes de la maîtresse mule qui se changèrent aussitôt en clochettes d'or. Puis il y a les bonnes filandières qui font des dons de richesse et prennent les enfants sous leur protection. De mon temps, ils ont enrichi plus d'une famille. Aussi les pauvres gens les attendent toujours et ça rendait leur pain noir moins dur. Mais hélas, pourquoi donc, grand-mère, ne les voit-on plus? Dit Toinette d'un accent plaintif. Les fades ont une lame fière, répondit la fileuse. Elles ne se montrent qu'à ceux qui les appellent avec confiance de cœur. Et comme on ne croyait plus en elles, la plupart ont quitté le pays avec leurs maris, les farfadets. Et cependant, il nous en reste un, fit observer Toinette. La vieille étendit la main avec une sorte de solennité. Oh, tant que Mère Grand habitera le Mont Rouge, dit-elle, les esprits viendront la voir, mais quand ils auront entendu le marteau closer son dernier pli, tous partiront avec leur vieille amie. À ces mots, elle se redressa sa quenouille et le rouet recommença à faire entendre son ronflement monotone. Je regardai mon compagnon. Elle ne dit que trop vrai, repris-je. Les vieilles générations emportent en disparaissant toutes les naïves croyances du passé, sans qu'il nous soit permis d'y substituer les rêves de l'avenir. Je viens de traverser les campagnes, et partout on m'a montré les grottes qu'habitaient autrefois les lutins ou les fées, en m'affirmant que leurs entrées se rétrécissaient chaque année, et que bientôt elles seraient closes pour jamais. N'est-ce pas une symbolique prophétie? Et la tradition populaire elle-même ne semble-t-elle pas annoncer que la porte des illusions ouverte jusqu'ici sur le monde se referme lentement? Hélas, que vont devenir nos générations d'essais entre cet antique soleil qui se couche et ce jeune soleil qui n'est pas encore levé? Elles le feront comme nous, reprit le Provençal. Elles attendront qu'on ait remis une roue neuve à leur diligence. Seulement, elles ne le feront pas de sorte d'attendre à juin. Et je propose de les imiter en soupant. Jean-Marie déclara que nous n'en aurions point le temps et commençait à prouver son assertion par un syllogisme invincible quand mon compagnon cria de mettre pour lui un troisième couvert, ce qui dérouta subitement la logique du postillon et amena une conclusion contraire aux prémices. Toinette se hâta de dresser la table devant le foyer où flambait une de ces bourrées de traînes ramassées à la lisière des taillis. Elle déploya une nappe de grosse toile à franges et apporta des assiettes ornées de figures et de légendes rimées. Celle qui m'échut en partage reproduisait l'histoire d'Henriette et d'Amon. Cette odyssée de l'amour parfait, c'est-à-dire malheureux et fidèle. Le berquin populaire, qui avait rimé l'amoureuse légende, y racontait avec une simplicité enfantine le premier aveu des deux amants et la visite de Damon au père d'Henriette. Damon, plein de tendresse, un dimanche matin ayant ouï la messe d'un père capucin, s'en fut chez le baron et d'un air civil et tendre, « Je m'appelle Damon, que je sois votre gendre. » Le père refuse en déclarant que sa fille doit entrer au couvent afin de laisser tout l'héritage à son frère. Et Damon part désespéré. Il est absent depuis plusieurs mois lorsque le baron reçoit une lettre qui lui annonce la mort de son fils. Il court aussitôt en faire part à Henriette qu'il veut retirer de son monastère. Mais celle-ci a appris que Damon avait péri près de Castella en Italie, et elle s'écrie à son tour qu'elle veut prendre le voile. Coupez mes blonds cheveux, dont j'ai un soin extrême, arrachez-en les nœuds, j'ai perdu ce que j'aime. Elle va prononcer ses vœux lorsqu'on annonce qu'un captif racheté revenant de Turquie, jeune et de qualité, en tout lieu se publie. Les nonnes veulent le voir et Henriette reconnaît Damon, qui lui raconte ses aventures chez les infidèles et sa délivrance par les religieux Mathurins. Le père, qui est enfin touché, consent à unir les deux amants. Mais au bout de 7 mois de bonheur, l'amour meurt de mort subite, et la complainte finit par cette naïve réflexion qui pourrait servir d'épigraphe à la vie humaine elle-même. Hélas, comme on regrette le court contentement. Je lisais avec un demi-sourire cette ballade où la puérilité de la forme n'avait pu détruire complètement la grâce touchante du fond. Et songeant à tant de générations dont les voix l'avaient chanté, je me demandais quelle inspiration de génie pouvait se vanter d'avoir éveillé autant de rêves et troublé autant de cœurs que ce romancero de village transmis de la mère à la fille comme un évangile d'amour. Les cris du nouveau-né m'arrachèrent à ma rêverie. Depuis longtemps déjà, il se faisait entendre, mais Toinette, tout en se hâtant, voulait achever de mettre le couvert avant d'aller à l'enfant. « Un instant, cri-cri, un instant !» murmura-t-elle. « Quand on est destiné à recevoir les gens, faut s'habituer à être servi le dernier.
Hey, »« Hé, voilà un Walt qui n'aime pas qu'on l'adore !» fit observer le postillon en riant.
« Rosillade, t'en as !» Car, comme dit le proverbe, ce qui s'apprend au beurre ne s'oublie qu'au verre. Soyez tranquille, reprit-elle. Les pauvres gens n'ont qu'à vivre pour prendre des leçons de patience. Mais l'enfant n'avait point encore eu le temps de faire cet apprentissage. Aussi ses cris devinrent-ils plus perçants. La grand-mère sembla prêter l'oreille. Soit que la voix frêle et claire du nouveau-né pénétra plus facilement la sourde muraille qui semblait l'envelopper, soit qu'il y ait dans les femmes qui ont été mères un sens caché que l'âge ni l'infirmité ne peuvent émousser, elle se redressa en criant « L'enfant appelle !»« J'y vais, grand-mère, » dit Toinette, en achevant précipitamment les derniers apprêts. « L'enfant est seul !» répéta la fileuse d'un accent inquiet. Sur votre salut, Tona, prenez garde qu'il soit mal doué par votre faute. » La jeune fille, effrayée du ton de la grand-mère, saisit une lumière, ouvrit la porte et traversa rapidement la petite cour. Je la suivis du regard au milieu de l'obscurité et je la vis entrer dans une pièce du rez-de-chaussée dont les fenêtres s'éclairèrent. Mais presque au même instant, un grand cri se fit entendre. Elle reparut sur le seuil, les traits bouleversés, les bras étendus, et semblant reculer devant une vision. Nous nous levâmes tous trois d'un même mouvement, et nous courûmes à la porte en demandant ce qu'il y avait.
« Elle est là, dans la chambre jaune !»
bégaya Toinette.
« La couchée ?» demandai-je.
« Non, non, la fade !»
Et comme nous faisions un pas pour y courir, Toinette nous arrêta du geste et fit signe de se taire. Un chant de berceuse venait de s'élever au milieu de la mue. Ce n'était pas une mélodie précise, mais plutôt quelques-unes de ces modulations caressantes que les femmes improvisent pour leur divagation maternelle. Il me sembla distinguer des mots d'une langue étrangère. « Te la bejas, vera io. Te la bejas, vera no mio. » Mon compagnon tressaillit, comme s'il eût reconnu ses paroles. Mais Toinette lui saisit le bras.
« Regardez, regardez !»
murmura-t-elle d'une voix étouffée. Sa main nous désignait la fenêtre éclairée. Nous fîmes un mouvement. Derrière le vitrage, une femme venait d'apparaître, tenant dans ses bras le nouveau-né, qu'elle berçait en chantant. Ses longs cheveux noirs tombaient sur ses épaules. Elle avait les bras nus et portait une sorte de basquine brillante de paillettes et de broderies. D'abord noyée dans la pénombre, la vision s'approcha bientôt de la fenêtre où sa silhouette se détacha nettement, encadrée dans la baie lumineuse. Le Provençal poussa une exclamation.
« Eh, Dieu me donne, c'est elle ?» s'écria-t-il.
« Mais qui cela ?» demandai-je.
«
Même à Dougazor, langue d'ancienne de Beaumont.
Que direz-vous sous ce costume?
Mais ne vous ai-je pas raconté qu'ils étaient tous partis hier soir, sans avoir le temps de changer d'habit? La petite est encore en princesse de Sicile.
Alors toute la troupe est donc ici, m'écriai-je.
Ce sont les voyageurs arrivés avant nous, fit observer Jean-Marie, et qui étaient tous empaquetés dans les châles et les manteaux, ajouta Toinette, frappée d'un air de lumière. Justement, leurs chambres sont là, derrière. Pardieu! Voilà le mystère, reprit le provençal en riant. La princesse aura entendu les cris du marmot, et en créature compatissante sera venue pour les apaiser. Attendez-moi là, je vais vous amener la fée. Il courut à la chambre jaune, et nous le vîmes reparaître un instant après, avec la jeune femme qui riait aux éclats de la méprise. Le reste de la troupe, attiré par le bruit, vint bientôt nous rejoindre. Mon compagnon, ravi du hasard qui lui ramenait inopinément la jolie langue d'ancienne, déclara que nous souperions tous ensemble et ordonna à Toinette de mettre l'auberge au pillage. La vue d'un menu des plus modestes, mais sur lequel il n'avait point sans doute compté, mit nos invités de belle humeur et l'entretien prit un ton de gaieté bohémienne tout à fait divertissant. C'était la première fois que je me trouvais en contact avec une de ces bandes errantes, pauvres hirondelles de l'art, qui, moins heureuses que leurs sœurs du ciel, volent sans cesse après un printemps qui leur échappe et cherchent vainement un toit pour suspendre leur nid. En voyant ces derniers vestiges de mœurs oubliées, je me figurais les comédiens de campagne avec lesquels Molière avait autrefois parcouru nos provinces, dressant comme Thespis des théâtres improvisés et ressuscitant un art perdu. Animé par le souper et par la vue d'un punch auquel le provençal venait de mettre le feu, nos convives parlèrent de leurs excursions vagabondes, de leur courte prospérité, de leur misère renaissante. La langue d'ancienne, surtout, que les soins galants de mon compagnon disposaient à la confiance, se laissa aller à raconter une partie de son histoire. C'était un de ces romans, mille fois refaits et toujours à refaire, qu'écrivent tour à tour l'insouciance, la jeunesse et la pauvreté. Elle nous le confiait avec des bouffées de folie et d'attendrissement, dont les reflets passaient sur son visage, comme passent sur un ciel changeant les rayons du soleil et les nuées. Elle avait autrefois habité chez un oncle, près du Serret, et parlait avec de naïfs ravissements de ses plaisirs de jeune fille. Courses dans la montagne, contrapasses dansées sur la place des villages, promenades de noces conduites par les jonglas au son du galoubet et du tambourin. Mon compagnon, qui avait passé plusieurs années dans le Roussillon, lui donnait la réplique et s'associait à tous ses enthousiasmes. Elle arriva à parler de la reine des danses méridionale, le bal. Et il s'écria qu'il l'avait autrefois dansé en veste et en bonnet catalan. Elle en marqua les mesures sur son verre et il se leva en indiquant les poses. Enfin, cédant tous deux à cet entraînement qui fait de la danse dans les pays du soleil une sorte d'irrésistible contagion, ils se saisirent par la main et commencèrent les passes gracieuses de la baïasse des Pyrénées. Ces passes consistent principalement en volte, en retraite et en poursuite cadencée, qu'entroupe le fameux pas de la Canada Rorona et de l'Espanada Diletta. La danseuse place ensuite sa main gauche dans la main droite du danseur, la balance trois fois, s'élance d'un bond et va s'asseoir sur l'autre main. Cette danse hardie était entremêlée de cliquetis de doigts, de frappements de talons, de cris élancés, qui lui donnaient quelque chose d'élégant et de rustique tout à la fois. On se sentait emporté malgré soi par des mouvements d'une spontanéité agreste. On s'associait d'instinct à cette joie en action. En contemplant au centre de l'aube lumineuse que répandaient le chandelle et le foyer,
ce couple dansant de vieilles bayas presque oubliées, et au fond, plongée dans l'ombre, la grand-mère qui continuait de filer, étrangère à tout ce qui se passait, il me semblait voir les images de la tradition riante du midi et de la tradition mélancolique du nord s'éteignant toutes deux, l'une haute dans la lumière et le bruit, l'autre dans les ténèbres et le silence. Le bruit d'un cheval qui arrivait au galop interrompit le bail. Jean-Marie, persuadé que c'était le conducteur qui venait nous chercher, courut à sa rencontre dans la cour d'entrée, et je le suivis. Mais, à notre grand étonnement, nous n'y trouvâmes qu'une jument blanche, haletante et couverte de sueur. Un jeune paysan était occupé à la débrider. « Ah, comment, c'est toi, Rougeau ?» dit le postillon en reconnaissant le garçon d'écurie du Lion Rouge. Rougeau ne parut point avoir entendu et continua son travail. « Mais d'où diable est-il arrivé à cette heure ?» demanda Jean-Marie à Toinette, qui venait de nous rejoindre. Ah, « Il n'y a que lui pour le dire, » répliqua la fillette. « Eh, Rougeau, répondrez-vous à la fin ?» Le paysan, qui avait ôté la bride, prit la jument par le licou pour la conduire à l'écurie. Je m'avançai vers lui. Il s'arrêta en me trouvant sur son passage, mais sans avoir l'air de me voir. Je m'aperçus alors que ses traits étaient contractés et que ses yeux entr'ouverts laissaient voir des prunelles immobiles. Un soupçon traversa brusquement ma pensée. Je saisis Rougeau par les deux bras et je le secouai brusquement. Il me laissa faire sans résistance. Tous les spectateurs nous entouraient et l'appelaient par son nom. Je pris une poignée de neige dont je lui frottai le visage. Il tressaillit enfin, ses yeux se fermèrent, puis s'ouvrirent, et il regarda autour de lui comme un homme qui s'éveille. « Quoi? Que voulez-vous ? » demanda-t-il, surpris de se trouver là par ailleurs et ainsi entouré. « Il est ensorcelé !» crièrent Jean-Marie et Toinette effrayés. « Eh non !» dit le Provençal. « Il est somnambule !» Je compris alors la double apparition du Gubelino près de la diligence et la chasse fantastique dont nous avions été témoins. Le passage du cavalier somnambule près des fermes isolées avait sans doute éveillé les chiens qu'il avait poursuivis. Ceci expliquait également le farfadet du Lion Rouge. On fit entrer dans l'écurie Rougeau et sa monture. Tous deux paraissaient bourrants de fatigue. La jument que le jeune paysan avait précipité au hasard à travers les ravins et les alliés était de plus marbrée de traces sanglantes. Toinette avait pris une poignée de paille pour essuyer la sueur et poussait une exclamation à chaque nouvelle plaie. « Jésus, regardez !» s'écriait-elle. « Du sang à la bouche, du sang au poitrail, du sang partout !»« Ce n'est rien !» répondait Jean-Marie, qui par esprit de corps cherchait à excuser le garçon d'écurie. « Oui, mais les genoux !» remarqua le Provençal. « Ne voyez-vous pas que la bête s'est couronnée ?»« On l'amènera au mire, » reprit le postillon. « Il la pansera et lui mettra une grenouillère. »« C'est inutile !» s'écria la Languedocienne qui nous avait suivis. « Je sais comment cela se guérit dans mon pays. »« Vous avez un remède ?» demandai-je. « Infaillible, » reprit-elle. Il suffit de négliger la plaie jusqu'à ce que les vers s'y mettent. Alors on va dans la campagne, on cherche un plant-d'huile, on le tord quelques feuilles, on lui dit « Adios, vous suis là aussi. Se mettra, c'est pas tous les berdes et même berdeniers. Votre coucrou pira gambo, mais il nous paye. Bonjour, monsieur Lieul. Si vous ne tirez pas les vers de l'endroit où ils sont, je vous coupe la jambe et le pied. » Et Lieul, qui est magicien, prend peur et il se hâte de guérir la plaie. Comme la princesse de Sicile achevait de nous donner cette recette méridionale,
la grand-mère, qui avait rejoint Toinette dans l'écurie et à qui la jeune fille avait tout expliqué, reparut avec elle. « Faut pas malmener Rougeau, » disait-elle avec calme. « La faute n'est pas à lui, mais à ceux qui ont voulu le faire vivre. « Mais pourquoi cela, mère Grand ?» demanda Toinette. « Parce qu'il est bâtard, » reprit la fileuse. « Et qu'à toutes les pleines lunes, ceux qui ne sont pas nés du mariage sortent malgré eux de leur lit pour courir par les campagnes. Dieu sait mieux se revenger que les hommes. Vois-tu, il punit les mères dans les enfants. »
Presque aussitôt, le conducteur de notre diligence arriva et nous avertit que la voiture était remise sur ses roues. Il fallut songer à repartir. Cette séparation parut coûter beaucoup à mon compagnon. Un instant, il sembla hésiter. Mais il était appelé à Abbeville par des recouvrements à échéance. Il épuisa, pour se dédommager, tout son vocabulaire de malédiction marseillaise, aux grands éclats de rire de la langue d'ancienne, et qui, soit discrétion, soit indifférence, ne fit rien pour le retenir. Cependant, lorsqu'il la prit à part et qu'il se mit à lui parler vivement, à demi-voix, elle devint tout à coup sérieuse, et quelques mois qui arrivèrent jusqu'à moi me firent supposer que le Provençal, ne pouvant adopter l'itinéraire de la jeune fille, lui proposait de suivre le sien. Mais elle secoua la tête et, lui montrant avec une subite mélancolie le fourgon que ses camarades se préparaient à atteler, elle lui répondit par les paroles solennelles que prononcent ses compatriotes lorsqu'ils veulent recevoir sur le seuil la jeune épouse de leur fils. « Ad pedacet maio, quel sablo et bon !»« C'est à ce foyer, mon enfant, que tu dois vivre et mourir. » Le Provençal lui serra la main sans insister et nous rentrâmes à l'auberge pour prendre nos manteaux. La mère Grand, à qui j'adressais un adieu transmis par Toinette, nous accompagna jusqu'à la porte de souhait d'heureux voyages dans lesquels se mêlaient naïvement les superstitions antiques et les superstitions chrétiennes. Que Dieu leur fasse rencontrer une croix de bon présage ou une pie qui vole à droite, dit-elle en ayant l'air de se parler à elle-même. Dans ma jeunesse, un voyageur ne quittait pas le Lion Rouge sans prendre au vaisselier une feuille de laurier bénie. Aussi le père en avait planté toute une haie dans le marger. Mais nos gens l'ont arraché pour agrandir le champ de luzerne, car maintenant on fait tous les jours la part plus petite au bon Dieu. Je cherchais à détourner la vieille femme de cette père en pente chagrine, en la remerciant de ses récits des anciens temps et en exprimant l'espérance de pouvoir les entendre plus longuement au retour. Elle fit de la main un geste mélancolique. « Tous les jours que je suis encore sont des délais accordés par la Trinité, » me dit-elle gravement. « L'aubépine qu'on avait plantée le mur de la journée de naissance à la porte du jardin est morte l'automne dernier. Il n'y a plus ici de fleurs de mon temps. Les gens et moi, nous ne regardons plus du même côté. Tout ce que je demande, c'est que l'on ait le temps de tisser le fil de mes demeures ternières quenouilles pour m'en faire un drap mortuaire. Et la raison, dis-je en sortant au Provençal, sa présence semble un anachronisme vivant au foyer villageois, de même qu'au foyer des villes, tout est changé. C'est un théâtre dont le temps a fait tomber la décoration et a fermé toutes les fausses trappes. Le drame domestique s'y joue désormais, comme les proverbes entre deux paravents. La muse de la famille, à laquelle nous devons les comptes de nos vieillers, est devenue sourde et aveugle, comme la grand-mère. Et comme elle, on la voit filer son linceul. Nous avons repris le sentier qui conduisait à la grand-route. Le vent avait cessé de souffler. Le froid était devenu moins vif. Les pâles lueurs d'une aurore d'hiver s'épanouissaient lentement à l'horizon. On commençait à revoir les ondulations de la campagne, les bouquets d'arbres, les hameaux épars, dessinant dans le crépuscule leurs formes confuses. Quelques chants de coqs berçaient la brume matinale, et de loin en loin des gémissements d'oiseaux engourdis se faisaient entendre au creux des fossés, presque enfouis sous la rouège. Avant de tourner le chemin qui conduisait à la grande route, jetâmes un regard derrière nous, et à travers la demi-obscurité, nous aperçûmes les comédiens groupés dans la cour du Lion Rouge et achevant leurs préparatifs de départ. Mon compagnon soupira. « Ne saviez-vous pas que cela devait finir ainsi ?» lui dis-je en souriant. « Nous avions commencé par des illusions. Il fallait bien finir par des regrets. Regardez là-bas la grand-mère debout sur le seuil, près de la princesse de Sicile. Ce sont là deux poésies que nous laissons derrière nous. Notre nuit s'est écoulée, pour moi au milieu des féeries du vieillage, pour vous au milieu de celles de la jeunesse. Nous avons le même sort. Après le rêve vient la réalité. C'est un juste retour des choses d'ici-bas. Et si vous vous en plaignez à votre langue d'ancienne, elle vous répondrait par la phrase proverbiale de son pays, « Cos conte rabun ?» Cela est contrairement. C'est-à-dire, cela est juste.